Et oui, le livre s'intitule « Napoléon III, bâtisseur du Sud-Ouest », c'était aux éditions Cairn. C'est le deuxième ouvrage que Marie-France Leca, son auteur, consacre à Napoléon III. Elle est mon invitée ce matin. Bonjour Marie-France Leca.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous. Je dois dire que c'est un très bel ouvrage. Je suis très contente et très heureuse de le présenter à ceux qui nous écoutent. On y apprend plein de choses dans votre livre. J'y ai notamment appris pourquoi les trains roulaient à gauche chez nous en France. Il y a ici de très belles photos. Alors on va le feuilleter ensemble, découvrir pourquoi est-ce que Napoléon III, vous le qualifiez de bâtisseur du Sud-Ouest. Avant ça, je voudrais tout de même savoir, comprendre votre intérêt particulier pour Napoléon. Léon III, qu'est-ce qui vous fascine chez lui ?
Alors, au départ, toute l'histoire est venue de... Je cherchais des documents, je cherchais des livres qui auraient été écrits sur la Villa Eugénie de Biarritz, puisque je suis native de Pau, donc ouais. Biarritz est à côté, bien ouais. sûr. Et je sais que ma mère m'a très très souvent parlé de cette fameuse Villa Eugénie, donc ouais. j'ai voulu en savoir plus. Or, rien n'avait été écrit là-dessus, absolument rien. Donc, j'ai commencé à me documenter. Et puis un jour, je me suis dit, mais puisque ça n'existe pas, et bien très modestement, n'est-ce pas, ouais. je vais écrire un livre sur la Villa Eugénie, sur l'impératrice à Biarritz. Ah. Donc, c'est venu de cette manière. Après, évidemment, comme j'ai lu, j'ai appris des choses sur le Second Empire que je ne connaissais pas du tout, oui. Moi non plus, parce que je crois que à l'école, on en fait vraiment
on passe assez vite l'impasse,
ouais. Puisque Napoléon III, hélas, il a été beaucoup décrié, puisque son règne s'est achevé par la défaite de Sedan mmh. et la perte de l'Alsace et d'une mmh. partie de la Lorraine. Mmh. Donc tout ce qu'il a fait avant, tout à coup, ça a été effacé. Et aujourd'hui, en effet, peu de personnes savent tout ce qu'il a fait pour la France, quand même. Alors, il a fait beaucoup pour la France et beaucoup pour le Sud-Ouest.
Est-ce qu'il y a une volonté de votre part, d'une certaine manière, de redérouer le blason de cet homme que vous avez découvert au gré oui. de vos recherches ? Je précise, au passage, que vous êtes professeur de français. Hein.
Professeur d'anglais.
D'anglais, pardon.
C'est presque pareil.
C'est presque pareil.
Voilà, bon, j'aime l'histoire. Oui, oui, oui. Quand j'ai découvert peu à peu tout ce qu'il avait fait, j'ai trouvé vraiment, il fallait le réhabiliter un peu. Même si des biographies très intéressantes ont été écrites sur lui, notamment des biographies vraiment pour le réhabiliter, entre autres la magnifique biographie de Philippe Séguin, ouais. que l'on connaissait,
bien sûr.
Qui était vraiment pour parler de lui en bien.
Presque hagiographique. On va peut-être le resituer tout de même, Napoléon III. Vous l'avez dit et je le confirme aisément, c'est un homme et un chef d'État assez méconnu, une période de l'histoire sur laquelle on passe un peu vite. Est-ce que vous pouvez nous le resituer ?
Alors, déjà, son règne a tout de même duré 22 ans, de 1848, lorsqu'il est élu premier président,
oui.
finalement c'est lui le premier président de la République française, donc mmh. premier président de la Deuxième République. Ensuite il sera empereur en 1851 et cela va durer jusqu'en 1870 lorsqu'il y a la guerre contre la Prusse.
Et alors il a une filiation, pardonnez-moi, assez oui. étonnante, hein, puisqu'il est le fils que le frère de Napoléon Bonaparte a eu avec la fille de Joséphine de Beauharnais.
Voilà, alors Napoléon Ier, lui, il souhaitait vraiment rapprocher les Beauharnais, puisqu'il était marié à Joséphine de Beauharnais,
ouais.
et donc il a fait épouser Louis, son frère cadet, Hortense de Beauharnais.
Mmh.
Donc il est le neveu de Napoléon Ier.
Il est le neveu de Napoléon Ier. Alors, on vous le dites, hein, on passe assez rapidement dessus dans l'histoire. Il est plutôt connu pour sa part sombre. De fait, Jean-François Soulet, l'historien qui signe votre préface, hein, se charge de le rappeler. Beaucoup de pauvreté à l'époque en France, un peuple exsangue, la force employée par l'État. Vous rappelez cet épisode des gendarmes en mai 1859 au marché de Tarbes.
Oui.
Gendarmes qui tirent sur les paysans révoltés contre l'augmentation des droits de place. Il en fait un Janus, en fait, hein, un homme politique qui a deux visages.
Oui. Alors, Napoléon III, c'était un saint-simonien, c'est-à-dire que c'était la grande époque, là, après la Révolution, après les guerres de l'Empire, après le règne de Louis-Philippe. Il y a donc la doctrine de Saint-Simon, qui est déjà de gauche, très socialiste. Et Napoléon III adhère complètement à cette vision des choses, c'est-à-dire qu'il faut donner du travail au peuple, il faut que le peuple puisse, les ouvriers, les paysans puissent vivre de leur travail, et c'est ce qu'il va s'employer à faire. Alors ça a été complètement oublié. Napoléon III fait entrer la France dans l'ère industrielle, alors que l'Angleterre est déjà très avancée dans l'industrie, et il va développer donc l'industrie en France, il va moderniser l'agriculture. Il sera aidé notamment par Achille Fould, dont on parlera tout à
Ah
l'heure,
oui.
de Tarbes, qui lui-même, Achille Fould, a déjà commencé, lui, sur ses propriétés, à moderniser l'agriculture. Donc, révolution industrielle et également, bien sûr, ce qui va avec, c'est le développement du chemin de fer.
Alors effectivement, vous le citez dans votre livre, il se rêve en bâtisseur, notre Napoléon III, dans son catéchisme industriel, il dit: J'ai reçu la mission de faire sortir les pouvoirs publics des mains du clergé, de la noblesse et de l'ordre du judiciaire pour les faire entrer dans celle des industriels. Alors arrivons-en à ces fameux travaux qu'il a réalisés dans le Sud-Ouest, et puis quand même tout de même cette question que je pense nos auditeurs se posent, pourquoi cette prédilection pour le Sud-Ouest en particulier?
Alors, Napoléon III, d'abord, n'a pas tellement vécu en France au départ, il a vécu surtout en exil. Il a vécu un petit peu en Suisse, ensuite quelques années en Angleterre. Donc, ce qu'il connaît de la France, c'est Paris, bien sûr, Boulogne, où il a fait sa tentative de soulèvement, Strasbourg aussi. Il connaît Bordeaux parce qu'en 1852, c'est lui le premier certainement qui invente les voyages présidentiels pour se faire connaître et pour connaître la France et la province. Mais c'est un voyage assez rapide malgré tout. Alors, pourquoi le Sud-Ouest? Il a fait construire en 1854 la fameuse Villa Eugénie à Biarritz, qui est devenue aujourd'hui le palace de la côte atlantique, c'est-à-dire l'hôtel du Palais. Eugénie, donc, qui est espagnole, a connu le village de Biarritz, est venue à Biarritz pour la première fois en 1844, donc elle était toute jeune, elle a aimé ce pays beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Napoléon III, lorsqu'il l'épouse, eh bien, il veut lui faire un cadeau. Et elle, évidemment, je pense qu'elle lui a parlé de cette beauté du Sud-Ouest. Ils vont faire un premier voyage. Et là, il décide, mais alors aussitôt, de faire construire une résidence de vacances, qui, au départ, devait être une résidence de vacances, et qui, peu à peu, sera agrandie et embellie pour être en quelque sorte une annexe
Ah
des
oui,
Tuileries,
c'est
puisqu'ils
ce que
vont
vous dites.
recevoir beaucoup, beaucoup de personnalités. Le roi des Belges, le prince de Monaco, la reine d'Espagne, le fameux Bismarck qui a failli se noyer à Biarritz en 1865, qui a été sauvé. Et bien sûr, quelques années après, on s'est dit, mais pourquoi l'a-t-on sauvé? D'autant que le marin qui l'avait sauvé, lui, est mort, noyé, quelque temps plus tard. Vous voyez l'ironie de l'histoire, là,
L'ironie
c'est,
de
voilà.
l'histoire, effectivement. Alors, il faut dire aussi, vous avez commencé à le dire effectivement, hein, l'impératrice Eugénie est espagnole, avait coutume de traverser aussi ou de se rendre dans les Pyrénées pour se soigner parce qu'elle tousse, elle a une maladie qui l'a fait tousser, hein.
Oui, alors, elle a un petit problème. Alors, au départ, c'est une sorte de rhume, mais persistant, chronique. Et très jeune, elle est venue se faire soigner aux Aubonnes, puisque toutes ces stations thermales, les Aubonnes, Luz, Saint-Sauveur, Cauterets, Barèges, tout ça, c'est déjà fréquenté par l'aristocratie. Depuis le XVIIIe siècle, on va prendre les eaux. On se soigne, mais c'est aussi un petit peu mondain. Donc Eugénie va se soigner plusieurs fois aux Aubonnes, et là aussi, quand la villa Eugénie sera construite, elle continuera à se rendre, à faire ses cures thermales, et elle va emmener aussi Napoléon III, notamment à Saint-Sauveur. Napoléon III qui a des problèmes également, alors lui, ce sont des problèmes, il a des calculs, il va se soigner un petit peu à Vichy de temps en temps, et puis un jour, il va à Saint-Sauveur.
À Saint-Sauveur, où là, il va construire un pont.
Alors, oui, alors auparavant, il faut dire qu'il a déjà les lignes de chemin de fer se sont
Oui,
développées.
on n'en
Parce
a
que,
pas encore parlé. De fait,
voilà.
ces travaux sont quand même extrêmement associés au rail et aux frères Pérère, hein.
Oui, alors ce sont les frères Pérère qui sont déjà dans les chemins de fer depuis une vingtaine d'années. eux aussi ont bien compris que si le chemin de fer se développait en Grande-Bretagne, ce serait une bonne idée aussi de développer les chemins de fer en France pour désenclaver les régions et notamment pour permettre aux productions agricoles d'être livrées plus rapidement.
Et alors, on le lit dans votre livre, pardonnez-moi, Napoléon III est très admiratif de ce qui se fait en Angleterre et c'est un petit peu pour concurrencer presque, pour arriver au niveau de l'Angleterre qui est déjà bien lancée dans la révolution industrielle qu'il va lancer le rail. Et donc, le rail, je parlais de rouler à gauche, les trains qui roulent à gauche, c'est oui. Parce que ça a été fait avec un constructeur anglais, hein.
Oui, voilà, exactement. On a d'ailleurs les premiers rails ont été commandés en Angleterre parce qu'il n'y avait pas encore l'industrie en France pour les fabriquer. Donc tout ça, c'est en Angleterre et voilà pourquoi on roule à gauche en France.
Alors voilà. Quelles seront ces réalisations aux frères Pereire et puis que l'on peut imputer à Napoléon III en termes de trains ? Je crois qu'il a, c'est à lui qu'on doit un crochet pour aller à Lourdes pour c'est au moment des apparitions, hein.
Exactement. En 1859, le train ne va pas jusqu'à Tarbes déjà. Donc on le fait aller jusqu'à Tarbes et on le fait aussi passer par Lourdes, puisque à Lourdes, depuis 1858, il y a les apparitions de la Vierge à la jeune Bernadette. Depuis un an d'ailleurs, enfin depuis un an, oui, pratiquement un an, la grotte a été fermée et une enquête est menée parallèlement par les autorités civiles et religieuses parce qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop les miracles, donc on veut d'abord faire une enquête et la grotte est fermée, de toute façon il n'y a pas d'accès. Cependant, Eugénie, qui est elle est religieuse, mais pas trop quand même. Elle est croyante, mais elle n'est pas bigote comme on a pu le dire par la suite. Ça, c'est une mauvaise légende. Elle est quand même intéressée par cette grotte. Napoléon III aussi, malgré tout, même si lui n'est pas vraiment croyant. En tout cas, ce qu'il faut avant tout, c'est faire aller le train le plus loin possible. Puisque en 1859, Napoléon III et Eugénie seront reçus par Achille Fould à Tarbes. Mmh. Ils passeront quelques jours dans la maison d'Achille Fould.
C'était le ministre des Finances, hein?
Alors, Achille Fould, c'est un personnage très, très, très intéressant qui n'est pas né à Tarbes, mais qui a connu la ville de Tarbes quand il était tout jeune, quand il avait 20 ans. Il avait un début de tuberculose et on lui avait conseillé d'aller se faire soigner aux Aubonnes. Donc, il a passé 18 mois, il habitait Tarbes et puis il allait faire ses cures successives aux Aubonnes. Mmh. Et c'est ainsi que ce pays l'a beaucoup intéressé. Alors, ce qu'il avait déjà vu, c'est que c'était un pays vraiment très, 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 très loin de Paris. Il fallait, je ne sais plus combien d'heures, 120 heures ou plus de Paris pour arriver jusqu'à Tarbes, en diligence évidemment. Mmh. Donc il s'installe là-bas, d'ailleurs il commence à acheter une propriété, il développe sa propriété et il se fait d'abord élire au conseil général et puis ensuite, quelques mois plus tard, on lui conseille de se faire élire député et il est élu député. Il achète d'autres propriétés et c'est là qu'il commence à développer l'agriculture. Ça, c'est très intéressant.
Mmh. Et c'est donc vers lui que se tourne Napoléon par rapport à Lourdes.
Oui, alors, donc au bout d'un an, donc ça a commencé en 1858, en 1859, on va rouvrir la grotte, alors pas tout de suite en 1859, enfin fin 59. Et alors, ce qui est un peu amusant, si on veut, enfin c'est un peu ironique, Achille Fould est né juif, il s'est converti au protestantisme, mais c'est lui que Napoléon charge de faire rouvrir la grotte, évidemment pour les catholiques. Mmh. Voilà. Il sera ministre des Finances à plusieurs reprises. Quand il jugera que Napoléon III dépense un peu trop d'argent, il donnera sa démission. Et puis Napoléon III ira de nouveau le chercher, lui fera comprendre que non, il faut dépenser de l'argent. L'argent, on le dépense et ensuite il revient.
Ah oui, c'est ça. Il a été visionnaire sur la théorie du ruissellement un petit peu. Hein.
Exactement. Alors, la petite anecdote, c'est que Achille Fould avait acheté les ruines du château de Bossens, près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et il va montrer... Alors, pendant ce temps, Napoléon III avait acheté les ruines de Pierrefonds, qu'il faisait restaurer aussi. Alors, il y a une petite anecdote. Achille Fould montre son très beau château, le château de Bossens, là, qui se... Hein. Et alors, Napoléon III tortille sa moustache, là, quand il avait envie de plaisanter, il commençait à tortiller sa moustache, et il dit à son ministre, « Mais voyons, vous aussi, vous avez des ruines, là, que vous faites restaurer. Alors, pourquoi m'en voulez-vous à moi de faire restaurer mon château de Pierrefonds ?» Et c'est là qu'Achille Fould lui dit, Oui, mais sire, moi j'économise d'abord, je dépense après. Vous,
Ah.
vous faites l'inverse. Et c'est là que Napoléon lui dit, mais est-ce que je n'ai pas raison? Tous les travaux que j'ai fait faire à Paris, ça a donné du travail aux ouvriers. Et ainsi, le pays se développe. Non, 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 non. Chacun, nous avons notre façon de voir, mais moi j'aime bien la mienne.
C'est passionnant, plein d'anecdotes hein, dans votre livre. Malheureusement, on doit déjà se quitter. Je vais nous quitter sur cette phrase de Napoléon III. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ponts à creuser, des rivières à rendre navigables. C'était son discours prononcé à Bordeaux en 1852, dans lequel il a un peu donné son programme de bâtisseur. Napoléon III, bâtisseur du Sud-Ouest. On n'a pas pu tout parler de tout, hein, mais il y a effectivement beaucoup de choses que l'on lui doit dans le Sud-Ouest. Je recommande ce livre à nos lecteurs, c'est passionnant, plein d'anecdotes, des jolies photos en plus de ça. C'est aux éditions Kern. Marie-France Leca en est l'auteur. Elle était notre invitée. Un grand merci.
Merci à vous. Au revoir.